France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 9 avril, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les Britanniques vont-ils élire des députés européens fin mai? Nouveau rebondissement hier soir à Londres, où tout, décidément tout, aura été tenté pour renégocier ou négocier tout simplement ce Brexit. Nous sommes en direct de Londres dès le début de ce journal après les autres titres, Agnès.
Question sur la méthode après la restitution du grand débat. L'intelligence artificielle pour prévenir les faillites d'entreprises, la parole des victimes hier au procès d'Abdelkader Merah, et puis la Gibson de Chuck Berry, la batterie de Ringo Starr, la guitare de Jimi Hendrix au Met de New York pour célébrer les légendes du rock.
Les invités de France Inter ce matin, Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
C'est le psychiatre Serge Tisseron, les parents le connaissent bien, son nom est affiché dans quasiment toutes les salles d'attente de pédiatres avec sa règle 3, 6, 9, 12. Une hygiène des écrans pour les enfants. Et bien ce matin, face aux tablettes, aux smartphones, aux consoles de jeux, Serge Tisseron lance un nouvel appel, Nicolas, à la vigilance.
À tout à l'heure, 8h20, lui a organisé le grand débat national. Il a accompagné le président de la République dans son tour de France. Après le Premier ministre hier, que retient Sébastien Lecornu de ce grand débat? Le ministre chargé des collectivités territoriales est l'invité du grand entretien de France Inter. Question dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
L'interminable feuilleton du Brexit avec un épisode inédit hier soir et sans doute pas prévu initialement dans le scénario. 3 ans après avoir voté la sortie de l'Union européenne, voilà les autorités britanniques contraintes hier soir d'annoncer des élections européennes pour le 23 mai. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Vous suivez donc ces multiples rebondissements du Brexit. Et ce matin, Antoine, la situation, il faut le dire, est particulièrement ubuesque.
Oui, on se préparait déjà au report de la sortie de l'Union européenne, puis au report du report. Et maintenant, nous allons avoir des élections titres. Le Sun, un scrutin en bonne et due forme organisé par décret avec des listes, des candidats aux européennes, comme si personne n'avait jamais parlé de Brexit. Alors officiellement, le gouvernement continue d'espérer que ce scrutin n'aura pas lieu. Si nous trouvons une solution, un accord avant le 22 mai, explique le porte-parole, le vote sera annulé. Mais cet accord rêvé, qui supposerait que la gauche et la droite trouvent un terrain d'entente, semble au fil des jours de moins en moins probable. Les discussions avec l'opposition n'aboutissent pas. Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, réclame le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière. Demande inacceptable pour les conservateurs qui sont de plus en plus nombreux à réclamer la tête de la première ministre.
Alors avant une réunion à Bruxelles demain, justement, Theresa May passe aujourd'hui par Berlin et Paris. Que demande la chef du gouvernement britannique?
En fait, elle vient surtout chercher du soutien, Theresa May, avant de demander officiellement un report de la sortie de l'Union européenne au chef d'État des 27, elle rencontre Angela Merkel, puis Emmanuel Macron, car le président français est l'un des principaux opposants à ce décalage du Brexit. C'est son moment de Gaulle, commente le Daily Mail. Il repousse le Royaume-Uni comme dans les années 60. Il faut donc lui présenter un plan clair pour sortir de la crise. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle le gouvernement britannique a annoncé l'organisation des élections européennes hier soir, pour montrer que cette fois-ci, le Royaume-Uni est un bon élève et qu'il se prépare à respecter jusqu'au bout les règles imposées par Bruxelles.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres ce matin pour France Inter. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Israël. Officiellement, le scrutin concerne les élections législatives anticipées, mais la consultation s'est transformée en référendum pour ou contre un cinquième mandat pour Benjamin Netanyahou. Les deux partis, le Likoud du Premier ministre et l'alliance bleu-blanc de centre-droit de Benny Gantz, sont au coude à coude dans les sondages. Aucun ne devrait cependant avoir une majorité suffisante pour gouverner. Il faudra donc trouver des alliés, dont la droite religieuse et identitaire, qui progresse dans le pays. Reportage à suivre dans le Zoom de France Inter.
Il est 7h04, Agnès, répondre à un immense besoin de justice et d'équité.
Ce sera tout l'enjeu du gouvernement après la restitution du grand débat national hier par Édouard Philippe, qui a souligné 4 grands axes dans les contributions des Français. Une immense exaspération fiscale, un besoin de liens quotidiens, d'une démocratie plus délibérative et une réponse à l'urgence climatique. Surprise. crise, les revendications des Gilets jaunes, comme le rétablissement de l'ISF ou le référendum d'initiative citoyenne, ont disparu des écrans radars. De quoi s'interroger, Yael Gauze, sur les limites de cette synthèse?
Première limite, cette synthèse des synthèses agglomère des sources différentes, avec des espaces d'expression parfois très ouverts, un cahier de doléances, et d'autres nettement plus fermés, comme les QCM du site internet du Grand Débat. L'exécutif est-il resté neutre dans cette opération? Aucune interférence, assurent les prestataires, mais le discours d'Édouard Philippe au Grand Palais était très politique, une restitution orientée, estime le sondeur Gaël Sliman, dont l'Institut Odoxa a bien mesuré lui aussi la priorité fiscale, mais pas l'absolue nécessité de réduire la dépense publique.
On a plutôt même le sentiment inverse, puisqu'en même temps que les gens demandent une baisse des impôts, ils nous disent aussi qu'ils veulent qu'on défende les services publics, qu'on ne touche pas à la santé. Or, ce sont bien dans ces différents domaines, notamment en ce qui concerne la santé, que l'État dépense le plus.
Et puis certains experts s'étonnent, c'est le cas à la commission du débat public écartée de l'organisation, certains s'étonnent que sur les contributions libres, on ait décompté les occurrences, les mots qui se répètent, mais pas le sens des phrases dans lesquelles ils s'insèrent, ce qui peut fausser l'interprétation. Enfin, succès de participation, opération inédite, oui, mais les contributeurs ne sont pas pour autant un échantillon représentatif de la société française, rien à voir avec les panels constitués en fonction de l'âge, de la géographie ou de l'activité exercée.
Et aujourd'hui, c'est devant les députés que le Premier ministre va restituer cette synthèse. Les députés qui ont adopté en première lecture hier soir la taxe sur les GAFA, 55 voix pour, 5 contre et 4 abstentions. Washington a une nouvelle fois demandé officiellement à Paris de renoncer à cette taxe. Et dans la foulée, le bureau du représentant américain en commerce a publié une liste de produits européens qui pourraient être taxés en représailles aux subventions accordées par l'Union européenne à Airbus. Une liste où figurent donc les gros porteurs, mais aussi les produits laitiers et le vin. Repérer au plus vite les entreprises en difficulté pour leur venir en aide et éviter les faillites. C'est la mission d'une start-up lancée par le gouvernement, baptisée Signaux Faibles, et qui fonctionne grâce à un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle. Testé en Bourgogne, ce logiciel va être déployé sur tout le territoire d'ici la fin de l'année. Alors comment fonctionne-t-il? Mode d'emploi signé Faustine Calmel.
Signaux Faibles compile les données de différents organismes, Banque de France, URSSAF, Direction régionale des entreprises. Tout cela est passé au crible par un logiciel d'intelligence artificielle et ses algorithmes. Il détecte par exemple le départ d'un collaborateur, la hausse du chômage partiel ou les premières factures impayées. Des signes qui, mis bout à bout, permettent de cibler les entreprises fragiles et de leur proposer des solutions, défend Thomas Courbe, directeur général des entreprises.
Très en amont, on peut encore mobiliser des prêts de la Banque publique d'investissement, un accompagnement du dirigeant sur le plan stratégique de son entreprise, des formations pour certains de ses salariés qui permettent de renforcer l'entreprise et de la remettre sur une bonne voie. Tous ces outils sont souvent inaccessibles au moment où de vraies difficultés financières interviennent.
L'objectif, c'est de détecter les PME fragiles un an et demi avant les vraies difficultés. En Bourgogne-Franche-Comté, où le logiciel a été testé, il a permis d'accompagner l'an dernier 52 entreprises sur les 63 identifiées. Il sera déployé avant l'été en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, puis dans toute la France.
Des témoignages bouleversants hier au procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère aîné de l'auteur de l'attentat contre l'école juive d'Ozara Torah de Toulouse en mars 2012. Mohamed Merah avait tué un père et ses deux enfants et une fillette. Plusieurs élèves avaient également été blessés, dont Jonathan, venu témoigner à la barre hier au nom de tous ceux qui n'ont pas encore la force de parler. Corinne Audouin.
Il n'a que 24 ans, mais c'est comme si Jonathan avait déjà vécu 1000 vies. À 10 ans, il perd sa mère. À 17 ans, en 2012, il est en terminale à l'école Ozara Torah.
Les bruits des balles, c'est quelque chose qui, je pense, ne quittera jamais. Ça se passe très très vite, donc on aurait tendance à croire que ça s'oublie. Mais en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que chaque seconde, finalement, elle est ancrée en nous et à tout jamais.
Depuis 7 ans, il est resté en contact avec les anciens internes présents ce 19 mars.
Quand on se revoit, on se permet de parler sans filtre et ça, c'est une grande chance. Chacun raconte où il était, ce qu'il faisait, comment il a perçu cet attentat et puis comment il l'a vécu les semaines, les mois et les années qui ont suivi. Et je pense que ça nous aide aussi à nous reconstruire aujourd'hui.
Beaucoup d'élèves de la terminale de 2012 sont partis vivre en Israël. Jonathan, lui, a choisi de rester.
C'était une manière de dire vous avez voulu nous tuer, vous avez voulu nous faire peur. Et moi, j'avais pas envie de leur donner raison, j'avais pas envie de leur donner cette victoire, et j'avais au contraire envie de rester en France. Et ça, c'est la plus belle des réponses que je vais pouvoir donner, en tout cas, face à cette atrocité et à ce manque d'humanité.
Élève avocat, il prêtera serment l'an prochain. Une vocation en lien avec l'attentat, peut-être qu'inconsciemment, dit Jonathan avec un sourire, j'en ai ressenti le besoin pour comprendre.
Le procès se poursuit jusqu'au 18 avril et tous les comptes rendus sont à lire sur franceinter.fr. Un nouveau front judiciaire dans l'affaire Benalla avec l'ouverture hier par le parquet de Paris de deux enquêtes préliminaires, notamment pour faux témoignages. C'est la suite des auditions menées par la commission d'enquête du Sénat. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont visés, mais également le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strada.
Il est 7h10, des écrans à consommer avec modération.
Et pour la première fois, trois académies de médecine, des sciences et des technologies rendent public aujourd'hui un appel à une vigilance raisonnée pour toute la famille, Daniel Messager, mais particulièrement pour les plus petits.
Premier facteur de risque chez le tout petit avant 3 ans, que le parent ne lui accorde pas suffisamment d'attention, car lui-même trop occupé par des écrans. Le développement d'un enfant s'organise en effet autour de ses capacités d'imitation. Bruno Falissard, membre de l'Académie de médecine.
L'enfant, il a besoin qu'on soit vraiment avec lui, de voir un regard, de voir une mimique, d'entendre une voix et de comprendre qu'en fait la voix, ça a à voir avec l'expression du visage de son papa et de sa maman. Si vous êtes à moitié avec lui, vous lui donnez le biberon et puis en même temps vous répondez à vos copains, ben il se sent à l'écart et ça, c'est pas bon pour son développement.
De 3 à 10 ans, les académies recommandent un temps dédié aux écrans pour apprendre à l'enfant à attendre et à s'autoréguler et de préférer le partage autour d'un écran pour éviter des troubles du développement.
Certains enfants qui sont très exposés aux écrans, qui ont des parents ultra connectés, ils sont un peu en repli, à distance du monde. C'est une inhibition dans la communication. Si vous avez une vulnérabilité biologique qui est propre, si vous vivez dans un environnement qui est un peu difficile, alors vous pourriez développer un véritable trouble psychiatrique. Faisons attention.
Ces recommandations ne concernent pas que les parents, mais aussi les pouvoirs publics, les fabricants de produits numériques. Si l'intérêt des écrans est incontestable, il faut, disent les scientifiques, pour un développement équilibré des enfants, en garder la maîtrise.
Et concernant les troubles possibles pour les adolescents, rendez-vous donc avec Serge Tisseron à 7h50. Le bon vieux temps du rock'n'roll au Met de New York, des guitares, des batteries, des cuivres, des basses pour une exposition consacrée à celles et ceux qui ont fait la légende du rock. Le musée présente ces objets devenus cultes et parmi les fans, Loïc Loury.
Comme la Gibson de Chuck Berry, tous ces instruments ont fait l'histoire de la musique. La batterie toute simple de Ringo Starr, la guitare à deux manches de Jimmy Page, autant d'objets devenus reliques. Jason Kerr Domnell, le commissaire de l'exposition.
Il y a quelque chose de différent, de spécial, lorsque c'est vraiment l'outil utilisé par un artiste pour écrire une chanson ou composer un disque. La plupart des objets présentés sont des instruments importants, ceux de stars du rock de plusieurs générations, et certains sont liés à des événements majeurs comme la guitare de Jimi Hendrix à Woodstock.
He's at Woodstock.
Alors, quel point commun entre Chuck Berry et Lady Gaga? Ils sont réunis au Met, aujourd'hui avec les Stones ou Van Halen.
Ils ont plein de choses en commun. Chuck Berry était connu pour son pas de canard, Lady Gaga pour sa façon de danser avec ses instruments. Elle a repris certains mouvements de Chuck Berry, c'est un vrai fil conducteur.
Des instruments passés à la postérité, mais dont la vocation n'est pas de rester accroché, leur histoire n'est pas terminée.
J'espère que c'est l'inverse, que tout cela est toujours bien vivant. L'exposition, je crois, est une célébration de ce qui se passe aujourd'hui, tout en respectant ce qui relève désormais de l'histoire.
New York, Loïc Loury, France Inter.
Et cette expo Play It Loud est à découvrir jusqu'au 31 octobre à New York.
Merci Agnès Soubiran. Comment ça roule? Point route, Adèle Bossard.
Point route avec la Grotte Chauvet 2 en Ardèche, le site UNESCO du premier chef-d'œuvre de l'humanité. Visitez la grande exposition des lions et des hommes. Consultez grottechauvet2ardèche.com.
Adèle, bonjour.
Bonjour à tous.
Accident à l'est de Paris.
Oui, sur l'autoroute A4 à hauteur de Saint-Maurice en direction de Paris, et l'accident bloque l'une des voies du milieu. Dans le secteur, vous mettez plus de 50 minutes à faire 9 km. Et puis un accident signalé aussi à l'entrée de la rocade de Marseille, à la jonction avec l'A50 en direction du nord de la ville.